Shalom, nous lomdim
et bonjour. Nous étudions des écrits du Rabash. La signification de la stricte interdiction d'enseigner la Torah aux idolâtres. Vous pouvez recevoir le matériel d'étude en français par email, le consulter dans différentes langues sur nos différents sites, poser des questions par écrit ou par oral sur Shivatova, sur Arvut. Si vous êtes dans la salle, veuillez vous lever pour poser la question et parler d'une voix forte et claire proche du micro. La signification de la stricte interdiction d'enseigner la Torah aux idolâtres. Nos sages ont dit, Rav Ami a dit, les paroles de la Torah ne doivent pas être données aux idolâtres. Comme il est écrit, il n'a fait cela avec aucune nation et ne leur a pas fait connaître les ordonnances. Dans le Sanhédrin, Rabbi Yonan a dit, un idolâtre qui s'engage dans la Torah doit mourir. Comme il est écrit, Moïse nous a prescrit une loi, un héritage. L'héritage est pour nous et pas pour eux. La Gemara demande, Rabbi Meir dirait, comment cela? Après tout, même un idolâtre qui s'engage dans la Torah est comme le grand prêtre. Comme il est écrit, si un homme les fait, il vivra par elle. Il n'est pas dit prêtre, lévite, ni israélien, mais homme. Cela signifie que même un idolâtre qui s'engage dans la Torah est comme le grand prêtre. Nous devons comprendre cela dans le travail, selon la règle selon laquelle dans le travail, nous apprenons toute la Torah en une seule personne. Le Zohar dit que chaque homme est un petit monde en soi. Cela signifie qu'il comprend les 70 nations du monde. Ainsi, qu'est-ce que Israël et qu'est-ce que les idolâtres au sein de l'homme? Une autre question. Concernant les paroles de Rabbi Meir, et qu'il apporte une preuve à partir du verset « Si un homme les pratique, il vivra par elles ». Après tout, dit Rabbi Shimon, un homme fait référence à Israël. Et il apporte comme preuve le verset « Vous êtes appelés homme » et non les nations du monde. Ainsi, Rabbi Meir apporte-t-il la preuve du mot « homme » comme faisant référence aux idolâtres? Le Tosfot souhaite expliquer dans le Sanhédrin qu'il y a une différence entre « homme » et « l'homme ». Rashi interprète qu'il ne devrait pas y avoir de malentendu à propos de Rabbi Shimon qui dit « l'homme » veut dire Israël. C'est simple. Il ne diffère pas de Rabbi Shimon. Un homme veut précisément dire Israël. En outre, nous devons comprendre la grande différence entre Rabbi Yohanan et Rabbi Meir, où Rabbi Yohanan dit, un idolâtre qui s'engage dans la Torah doit mourir. Et pour Rabbi Meir, il ne semble pas comme quelqu'un d'ordinaire d'Israël, mais comme le grand prêtre. Se pourrait-il qu'il soit plus grand que quelqu'un d'ordinaire en Israël? Le Zohar dit, et dans le commentaire du Soulam, Rabbi Elazar a demandé à Rabbi Shimon son père. Il est écrit, il n'a fait cela avec aucune nation. Cependant, nous devrions nous demander, puisqu'il est écrit, il déclare ses paroles à Jacob. Pourquoi, dit-il, ses statuts et ses ordonnances à Israël. C'est un double sens. Et puisque la Torah est cachée, élevée et précieuse, son nom même, toute la Torah est donc cachée et révélée, ce qui signifie qu'en elle, il y a caché et littéral dans son nom. Par conséquent, Israël est à deux degrés, caché et révélé. Nous avons appris que trois degrés sont reliés les uns aux autres. Un, le Créateur. Deux, la Torah. Trois, Israël. C'est pourquoi il est écrit, il déclare ses paroles à Jacob, ses statuts et ses ordonnances à Israël. Il y a deux degrés. L'un est révélé, le degré de Jacob, et l'autre est caché, le degré d'Israël. Que suggère le texte? Il répond, quiconque est circoncis est inscrit au Saint-Nom. Pardon, quiconque est circoncis et inscrit au Saint-Nom est inscrit aux choses révélées dans la Torah. C'est le sens de ce qui est écrit, il déclare ses paroles à Jacob. Pourtant, ses statuts et ses ordonnances à Israël se situent à un degré plus élevé. Par conséquent, ses statuts et ses ordonnances à Israël sont les secrets de la Torah. Les lois de la Torah et les secrets de la Torah n'ont pas besoin d'être divulgués, sauf à ceux qui se trouvent à un degré supérieur. Et comme c'est le cas d'Israël, c'est-à-dire qu'il ne divulgue la Torah qu'à celui qui est un degré élevé, cela l'est d'autant plus pour les nations idolâtres. Au point 303, il est écrit « Venez et voyez que la première chose dans la Torah qui est donnée aux nourrissons est l'alphabet. C'est quelque chose que les peuples du monde ne peuvent pas souhaiter ni concevoir dans leur compréhension. Pour comprendre ce qui précède, nous devons d'abord savoir ce qu'est Israël et ce qu'est un idolâtre dans le travail. » Nos sages ont dit à propos du verset Shabbat, il n'y aura pas de Dieu étranger en vous et vous ne vous prosternerez pas devant un Dieu étranger. Quel est le Dieu étranger dans le corps de l'homme? C'est le mauvais penchant. Cela signifie qu'un idolâtre est appelé mauvais penchant. Il s'ensuit que lorsque l'on parle d'un seul corps, alors l'idolâtrie qui est appelée un dieu étranger ou un dieu étranger est entièrement à l'intérieur de l'homme. En conséquence, nous devons discerner l'idolâtrie chez la personne elle-même, qui est le mauvais penchant, et le discernement d'Israël, qui est le bon penchant. Cependant, nous devons comprendre pourquoi ce penchant, qui tente de se réjouir et de profiter de la vie, est appelé mal. Après tout, il dit à un homme, « Si tu m'écoutes, tu profites de la vie. » Alors, pourquoi est-il appelé mauvais penchant ou Dieu étranger? En outre, quel est le lien entre l'idolâtrie et le mauvais penchant? Et pourquoi est-il appelé divin? Et pourquoi le sert-on et se prosterne-t-on devant lui lorsque l'on sert l'idolâtrie? Nous savons qu'il y a deux rois dans le monde. Un, le roi de tous les rois. Deux, un roi vieux et insensé, signifiant le mauvais penchant, Yetzer Hara. On l'appelle aussi deux autorités. Un, l'autorité du Créateur. Deux, l'autorité de l'homme. Nos sages ont dit que lorsqu'un homme naît, il naît immédiatement avec le mauvais penchant. Comme il est écrit, le péché est tapis à la porte. Dans le Zohar, cela signifie que dès que l'on sort du sein maternel, le mauvais penchant vient à lui. Dans le travail, nous devons interpréter qu'immédiatement, dès le jour de la naissance, l'homme travaille et sert le mauvais penchant en lui avec son cœur et son âme. Cependant, nous savons que le mauvais penchant n'est que le désir de recevoir en nous, comme expliqué dans l'introduction au livre du Zohar. Et dès que l'on naît, son seul but est de servir le désir de recevoir. Cela signifie que tous ses sens se concentrent sur la manière de servir le roi vieux et insensé. Aussi, il s'incline devant lui, et s'incliner signifie qu'il lui soumet sa raison et son esprit. Cela signifie que parfois il entend dire qu'il faut servir le roi de tous les rois. Et parfois, l'esprit et le cœur décident que la raison pour laquelle nous sommes nés n'est pas pour servir le désir de recevoir. Et pourtant, il capitule devant cette idée en disant, bien que ma raison me montre qu'il ne vaut pas la peine de travailler et de servir le désir de recevoir toute ma vie, mais qu'il vaut mieux servir le Créateur, je vais au-dessus de la raison. En d'autres termes, le corps me dit, abandonne tout ce que tu as reçu des livres et des auteurs, que tu dois servir le Créateur. Au contraire, tel qu'hier, aujourd'hui, ne défie pas le désir de recevoir, mais sers-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Il s'ensuit que l'homme s'incline devant le désir de recevoir, car se soumettre à la raison s'appelle s'incliner. Et ceci est considéré qu'un homme sert un dieu étranger, qui est étranger à l'Akdoucha. Également, il est appelé un dieu étranger, car il est étranger à l'Akdoucha. À ce moment-là, la personne qui le sert est appelée étranger ou idolâtre. Et c'est le dieu étranger dans le corps d'un homme. En d'autres termes, le dieu étranger n'est pas quelque chose d'extérieur. Il sert quelque chose en dehors de son propre corps. On pense que cela est en fait considéré comme un acte d'idolâtrie. Au contraire, le fait de servir et de travailler pour son corps, qui est appelé le désir de recevoir à l'intérieur du corps de l'homme, est un acte d'idolâtrie. Et cet homme est appelé un étranger ou un idolâtre. Il en est ainsi parce que il n'a aucun lien avec la Kdusha, puisque Kadosh, saint, signifie le Créateur. Comme il est écrit, vous serez saint, car moi, l'Éternel, je suis saint. Cela signifie, vous vous abstiendrez. Puisque le Créateur est le donneur, pour avoir l'adhésion à lui, appelée l'équivalence de forme, une personne doit également être un donneur, et cela s'appelle la Kdusha, sainteté. Il s'ensuit donc que celui qui sert et travaille pour le désir de recevoir crée un objet, c'est-à-dire que c'est son Dieu. Il souhaite servir uniquement cela de son cœur et de son âme, et dans tout ce qu'il fait, même un acte de don, il considère que même en l'acte de don, il n'en tira de bénéfice qu'en fonction de son désir de recevoir. Il ne détourne pas son attention de cela, mais il s'accroche à sa foi que c'est tout ce qui doit être servi. Même si son esprit décide que cela ne vaut pas la peine de le servir, il n'a toujours pas le pouvoir de trahir son Dieu, qu'il sert depuis le jour de sa naissance. C'est pourquoi on l'appelle foi, puisqu'il sert son désir de recevoir au-dessus de la raison. Il n'y a aucune raison au monde qui puisse le détacher et le séparer de l'adhésion qui lui est attachée depuis le jour de sa naissance. C'est ce qu'on appelle un goy ou un étranger. Israël signifie le contraire d'un dieu étranger, c'est-à-dire Yachar, quel droit à Dieu. Cela signifie que sa seule intention est que tout aille directement au Créateur. En d'autres termes, sa seule pensée et son seul désir est de venir directement à la Dvekut au Créateur. Et il ne veut pas écouter la voix du désir de recevoir. Il dit que le nom qu'on a donné au désir de recevoir, mauvais penchant, Yetzerara, lui convient, parce que il ne fait que lui faire du mal. En d'autres termes, plus il essaye de satisfaire son souhait pour que cela n'entrave pas son travail de servir le Créateur, bien au contraire, c'est-à-dire qu'il assure constamment de lui donner ce qu'il exige de lui. Et il le lui donne parce qu'il pense qu'en agissant ainsi, cela cessera de le déranger. Mais alors, nous voyons exactement le contraire. Ce bénéficiaire devient en réalité plus fort en satisfaisant ses besoins, ce qui signifie qu'il devient encore plus mauvais. Et maintenant, il voit à quel point nos sages avaient raison lorsqu'ils disaient, Bereshit Rabba, ne faites pas de bien à celui qui est méchant. C'est-à-dire, ne faites pas de bien à quelqu'un de méchant. Il en va de même pour nous, qui apprenons tout en un seul homme. Le sens sera qu'il est interdit de faire du bien au désir de recevoir, qui est le mauvais penchant. Car de tout bien qu'une personne lui fait, elle a plus tard plus de force pour lui faire du mal. Et c'est ce qu'on appelle rendre une faveur au mal. Ils sont comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire que dans la mesure où il le sert, sa force de lui faire du mal est également servie. Cependant, il faut toujours se rappeler que le mal, il faut toujours se rappeler quel est le mal que lui cause le receveur. C'est pourquoi il faut toujours se rappeler du but de la création, faire du bien à ses créations, et croire que le Créateur peut procurer un délice et un plaisir sans fin. À ce sujet, il est écrit « Et attendez-moi à cette épreuve, dit l'Éternel Sébaoth. Vous verrez, si je n'ouvre pas en faveur les cataractes du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » La raison pour laquelle une personne ne ressent pas le délice et le plaisir que le Créateur souhaite donner est due à la disparité de forme avec le Créateur, qui est le donneur et celui qui reçoit. Cela provoque la honte à la réception du délice et du plaisir. Pour éviter le pain de la honte, il y a eu une correction appelée tzimtzum, restriction. Ne pas recevoir, sauf si c'est pour accorder du contentement à son Créateur. C'est ce qu'on appelle l'équivalence de forme. Comme on dit nos sages, comme il est miséricordieux, sois miséricordieux. Cela signifie que comme le Créateur est le donneur et qu'il n'y a aucune réception en lui, car de qui recevrait-il? L'homme aussi devrait s'efforcer d'atteindre ce degré de ne pas vouloir travailler pour lui-même, mais de garder toutes ses pensées et désirs pour plaire à son Créateur. Et puis, il reçoit des kélim appropriés pour la réception de l'abondance supérieure, qui est le nom général du délice et du plaisir que le Créateur souhaitait donner aux créatures. En général, l'abondance se divise en 5 discernements, appelés Naranhai. Parfois, ils sont appelés Naran. En outre, l'abondance supérieure peut simplement être appelée Neshama, âme. Et le receveur de la Neshama est appelé Gouf, corps. Mais ce ne sont pas des noms fixes. Mais cela dépend du contexte. Ainsi, qui fait obstacle aux délices et aux plaisirs susmentionnés? C'est seulement le désir de recevoir. Il fait obstruction et ne nous fait pas sortir de son autorité, appelée recevoir afin de recevoir. C'est sur ce discernement qu'a eu lieu le Tzimtzum, corriger les récipients de réception afin qu'ils soient afin de donner sans réserve, moment auquel il sera comme le donneur. Et ici, il y a une équivalence de forme appelée dvekut, adhésion. À ce moment-là, à travers la dvekut au Créateur, une personne est considérée comme vivante, puisqu'elle est attachée à la vie des vies. Et grâce au receveur en lui, il est séparé de la vie des vies. C'est pourquoi nos sages ont dit, les méchants dans leur vie sont appelés morts. Ainsi, il est clair qui nous empêche de recevoir la vie. C'est seulement le receveur en nous. Et nous devons le déterminer à travers le calcul susmentionné. Il s'avère que c'est là la cause de toutes les douleurs et ennuis dont nous souffrons. De toute évidence, le surnom de « mauvais penchant » lui convient, puisque Il est la cause de tous nos ennuis. Imaginons un homme malade qui veuille vivre. Il n'y a qu'un seul remède qui puisse lui sauver la vie, par lequel il sera récompensé de la vie, sans quoi il devra mourir. Et il y a une personne qui l'empêche de prendre ce médicament. De toute évidence, cette personne est appelée un homme méchant. C'est la même chose pour nous. Quand on apprend que c'est seulement par le désir de donner sans réserve qu'il est possible d'être récompensé de la vie spirituelle, que c'est là que se trouvent les véritables délices et plaisirs, et que ce désir de recevoir nous retient de recevoir, comment allons-nous le voir? Bien sûr, nous devrions le voir comme l'ange de la mort. Autrement dit, il nous empêche de recevoir la vie. Lorsqu'une personne réalise cela, que notre receveur est le mal en nous et souhaite être Israël, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas commettre l'idolâtrie, qui est le mauvais penchant dans le corps de l'homme, et souhaite se repentir d'avoir commis l'idolâtrie tout ce temps, et souhaite être un serviteur du Créateur. Dans cet état, lorsqu'il souhaite sortir de la domination du mauvais penchant, que doit-il faire? À cela, il y a la réponse que nos sages ont dit. Ainsi dit le Créateur à Israël, mes fils, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé pour lui l'épice de la Torah. Si vous vous engagez dans la Torah, vous ne serez pas livré entre ses mains. Comme il est écrit, si vous faites le bien, et si vous ne vous engagez pas dans la Torah, vous serez livré entre ses mains. Comme il est écrit, le péché est tapis à la porte. En d'autres termes, seul l'engagement dans la Torah a le pouvoir de sortir de la domination du mauvais penchant et d'entrer dans l'Akdoucha. Il s'ensuit donc que celui qui s'engage dans la Torah, lorsqu'il parle du travail, le but de l'étude doit être clair pour une personne, c'est-à-dire la raison qui le pousse à s'engager dans la Torah. Il en est ainsi parce que il y a deux opposés dans la Torah, comme l'ont dit nos sages. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, pourquoi est-il écrit? Et ceci est la loi que Moïse a établie. S'il est récompensé, cela devient pour lui un élixir de vie. S'il n'est pas récompensé, cela devient pour lui une potion de mort. Pour cette raison, lorsqu'une personne s'engage dans la Torah, elle doit veiller à ce que la Torah ne l'amène pas à la mort. Cependant, il est difficile de comprendre comment il peut y avoir une telle distance entre être récompensé et ne pas être récompensé, au point que l'on dit que s'il n'est pas récompensé de s'engager dans la Torah, cela devient pour lui une potion de mort. Ne suffirait-il pas qu'il ne soit pas récompensé? Pourquoi est-il encore pire que celui qui n'est pas du tout engagé dans la Torah? Autrement dit, celui qui ne s'est pas engagé dans la Torah n'a pas de potion de mort, et celui qui s'est engagé dans la Torah a obtenu, en échange de son travail, la mort. Une telle chose peut-elle exister? Cette question est présentée dans l'introduction au Talmud des Dix Sphirot. Cependant, leurs paroles nécessitent une explication pour comprendre comment et par quoi la Torah devient pour lui une potion de mort. Non seulement son travail et ses efforts sont vains, et il ne tire aucun bénéfice de son travail et de son effort, mais la Torah et le travail eux-mêmes deviennent pour lui une potion de mort. C'est effectivement déroutant. Dans l'introduction au Talmud des Dix Sphirot, puisque le Créateur se cache dans la Torah, puisque la question des tourments et des douleurs que l'on éprouve pendant la dissimulation de la face n'est pas la même entre celui qui possède peu de péchés et a fait peu de Torah et de mitzvot, et quelqu'un qui s'est beaucoup engagé dans la Torah et les bonnes actions. Le premier est tout à fait qualifié pour juger favorablement son Créateur, pour penser que la souffrance lui est venue à cause de ses péchés et de la rareté de la Torah. Pour l'autre, en revanche, il est beaucoup plus difficile de juger favorablement son Créateur. C'est pareil pour nous. Lorsqu'il place le but devant ses yeux, cela signifie que celui du haut souhaite ravir ses créatures. Mais, pour éviter la honte, nous devons avoir des récipients de dons sans réserve. Et puisque nous sommes nés avec le désir de recevoir, qui est considéré comme un Dieu étranger, que nous servons au-delà de la raison et qui nous a servi, et que nous ne pouvons pas sortir de son pouvoir, nous croyons en nos sages qui ont dit, le Créateur a dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé l'épice de la Torah. C'est la raison qui pousse l'homme à s'engager dans la Torah. Et alors, la Torah lui donne la vie. En d'autres termes, grâce à la Torah, il sort de la domination du mauvais penchant et devient un serviteur du Créateur. Ce qui signifie que son intention est uniquement d'apporter du contentement à son Créateur. Et il sera récompensé de Dvekut Hashem, l'adhésion au Créateur, ce qui signifie qu'à ce moment-là, il adhérera à la vie des vies. En effet, ce n'est que dans cet état, lorsqu'une personne étudie dans ce but, que la Torah est considérée pour elle comme un élixir de vie, puisque grâce à la Torah, elle sera récompensée de la vie. Et pourtant, il ne s'engage pas dans la Torah dans ce but, par la Torah qu'il étudie. Le désir de recevoir se renforcera et acquérera plus de force pour le maintenir sous son contrôle. En effet, celui qui le reçoit lui fait comprendre qu'il n'est pas comme les autres, car grâce à Dieu, c'est un homme qui a acquis de bonnes actions et de la Torah. Et certainement, le Créateur ne devrait pas le traiter comme il traite les gens ordinaires. Plutôt, le Créateur devrait le reconnaître tel qu'il est. Et s'il travaille en cachette, il est certain d'avoir des plaintes contre le Créateur. Puisque s'il souffre de quelque chose et qu'il dit au Créateur, est-ce là la récompense de la Torah? Ainsi, il a toujours des griefs contre le Créateur, ce qui est appelé douter de la Shrina, en référence au Créateur. Par cela, ils sont séparés de la vie des vies. Cela signifie que là où ils auraient dû aspirer à s'annuler devant le Créateur et à tout ce qu'ils font, et à ce que tout ce qu'ils font soit destiné uniquement à servir le Créateur, ceux qui travaillent pour le receveur souhaitent que le Créateur les serve. Tout ce dont leur receveur a besoin, le Créateur devrait le satisfaire. Il s'ensuit qu'ils travaillent à l'opposé de ceux qui veulent être récompensés de la vie par leur engagement dans la Torah. Par conséquent, nous pouvons comprendre ce que nous avons demandé sur la raison pour laquelle Rabbi Ami a dit « La Torah ne doit pas être donnée aux idolâtres ». Si cela est dans le travail, c'est-à-dire dans la personne elle-même, et qu'elle travaille dans un état d'idolâtrie, la raison pour laquelle il est interdit d'apprendre est que cela ne sert à rien. En effet, dans le travail, nous apprenons que nous devons étudier la Torah afin de sortir de l'emprise du mauvais penchant. Mais s'il ne veut pas se libérer de l'esclavage du mauvais penchant, pourquoi a-t-il besoin de la Torah? Il s'ensuit que si on lui donnait la Torah, cela ne servirait à rien. C'est une perte de temps pour celui qui va lui apprendre. Cependant, Rabbi Yohanan ajoute à Rabbi Ami, non seulement cela ne sert à rien, mais si un idolâtre s'engage dans la Torah, cela lui fera du mal. Il risque son âme, car pour les idolâtres, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah sans avoir pour objectif de sortir de la domination du mauvais penchant, mais qui souhaitent y rester et le servir volontairement, cela s'appelle l'idolâtrie. À ce sujet, il est écrit « Un dieu étranger dans le corps de l'homme ». Ainsi, il prend pour lui la potion de mort. C'est pourquoi Rabbi Yohanan a dit « Un idolâtre qui s'engage dans la Torah doit mourir ». Cela signifie qu'il risque son âme, car la Torah sera pour lui une potion de mort. Cependant, ce que dirait Rabbi Meir est d'où vient qu'un idolâtre qui s'engage dans la Torah doit mourir? Il est plutôt comme le souverain sacrificateur. Comme il a été dit, si un homme les fait, il vivra par elle. Et à ce sujet, nous avons demandé à pourquoi dit-il qu'il est comme le grand prêtre? Un prêtre ordinaire n'est-il pas un degré élevé? C'est tellement loin des paroles de Rabbi Yohanan qui pense qu'il doit mourir. Alors, quelle est la raison de cette exagération selon laquelle il est le grand prêtre? B. Les interprètes demandent « Quelle est la preuve apportée par Rabbi Meir, là où il est écrit « l'homme » ?» Rabbi Shimon dit que l'homme désigne en réalité Israël et non les idolâtres. Nous devrions interpréter ce que dit Rabbi Meir. Un idolâtre qui s'engage dans la Torah, comme faisant référence à ce que nous avons expliqué ci-dessus, l'intention de Rabbi Meir est qu'une personne se rende compte qu'elle est un idolâtre, qu'elle voit que depuis le jour de sa naissance jusqu'à maintenant, elle a servi des idoles. un dieu étranger, c'est-à-dire le mauvais penchant qui est à l'intérieur du corps de l'homme. Il voit à quel point il est asservi et sous son contrôle et qu'il n'a aucune force pour défier sa parole. Et bien qu'il comprenne souvent avec son esprit et sa raison que cela ne vaut pas la peine de le servir, mais qu'au contraire, le mauvais penchant devrait servir la Kdusha. Néanmoins, il soumet sa raison et le sert comme s'il réalisait que cela vaut la peine de le servir. Lorsqu'une personne en vient à s'en rendre compte, lorsqu'elle voit qu'il n'y a aucune puissance au monde qui puisse l'aider, et qu'elle voit qu'elle est perdue, et qu'elle sera retranchée de la vie pour toujours, pour se délivrer de la mort, étant le méchant dans leur vie, ils sont appelés morts. Dans cet état, il en vient à croire les paroles de nos sages. Ils dirent, voici ce que le Créateur a dit à Israël. Mes fils, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé pour cela l'épice de la Torah. Si vous vous engagez dans la Torah, vous ne serez pas livrés entre ses mains. C'est à propos de ce genre d'idolâtre que Rabbi Meir a dit qu'il était comme le grand prêtre. Et il apporte comme preuve qu'il est écrit, si un homme les fait, il vivra par elles. Il interprète que si quelqu'un s'engage dans la Torah pour vivre selon elle, si la raison de son engagement de la Torah est qu'il souhaite être récompensé par la vie et ne pas être un méchant, un idolâtre, qui est un dieu étranger, dans un sens, mais que son seul objectif est d'être récompensé par la vie, ce verset, si un homme les fait, il vivra par elle, parle de lui. En effet, il s'engage dans la Torah. S'il s'engage dans la Torah, il sera comme le grand prêtre. Et pas seulement un prêtre, mais il sera prêtre, c'est-à-dire qu'il obtiendra la qualité de chesed, miséricorde, qui est appelé prêtre. Ce qui signifie qu'il sera récompensé par des récipients de dons. Il sera également récompensé par gadlout, qui est la grandeur ou l'âge adulte. C'est pourquoi il dit qu'il est comme le grand prêtre. En conséquence, nous devrions le demander pourquoi Rabbi Meir dit « même un idolâtre ». Comme nous l'avons expliqué, c'est le contraire, puisque un tel idolâtre est digne d'être grand prêtre. Nous pouvons expliquer et dire que le mot « même » signifie que même si une personne arrive à une telle humilité qu'elle voit qu'elle est vraiment un idolâtre, elle voit que jusqu'à présent, elle n'a rien gagné dans sa vie, mais qu'elle a seulement servi son mauvais penchant. En d'autres termes, toutes ses pensées et tous ses désirs ont été en faveur du destinataire. Il n'a même pas touché le chemin de la vérité. C'est-à-dire qu'il a eu la capacité de croire au-dessus de la raison au Créateur. Mais c'est seulement selon ce que la raison du receveur lui a permis de voir qu'en travaillant spécifiquement pour elle, elle lui donnera de l'énergie pour s'engager dans la Torah et les mitzvot. À une telle personne, Rabbi Meir vient et dit, Ne regrettez pas cette bassesse, mais vous devriez croire que même lorsque vous êtes arrivé à un niveau si bas, le Créateur peut toujours vous aider à sortir de l'exil où vous êtes sous son contrôle pendant tout ce temps. La raison est donc contraire. Le sens de ce qui est dit, même si le monde est d'accord. Cependant, en réalité, la Torah n'est nécessaire que maintenant. Ce n'est que maintenant que vous avez les vrais kélim, un vrai besoin que le Créateur vous aide, puisque vous êtes parvenu au point de vérité. Comme ont dit nos sages, le penchant de l'homme augmente chaque jour. Sans le Créateur, il n'y arriverait pas. Maintenant, il voit la vérité, à savoir qu'il a vraiment besoin de l'aide du Créateur. Maintenant, nous pouvons comprendre les paroles mentionnées ci-dessus du Zohar, où il dit qu'à première vue, nous devrions faire trois discernements dans le travail. 1. Les idolâtres. 2. Jacob. 3. Israël. La différence entre eux est qu'il est interdit aux idolâtres d'étudier même la Torah littérale. Et nous l'apprenons par ce qui est écrit. Il n'a fait ainsi avec aucune nation. En général, il est permis de lui enseigner le sens littéral, notamment dans les matières révélées. Il conclut cela du verset « Déclare ses paroles à Jacob, qui est un degré inférieur. » Lorsqu'il atteint un degré supérieur, il est permis de lui enseigner les secrets de la Torah. Cela se conclut à partir du verset « Ses statuts et ses ordonnances à Israël ». Il est écrit dans le Zohar « Ainsi, tu diras à la maison de Jacob, au lieu qui convient à leur degré. Et dites-le aux enfants d'Israël, puisque Jacob et Israël sont à deux degrés. Jacob est le degré de Vak, et Israël est le degré de Gar. Cependant, Israël est appelé la totalité de toute chose, ce qui signifie montrer Chorma et parler dans l'esprit de Chorma. Et il est écrit dans le Zohar, « Ainsi, tu diras à la maison de Jacob, s'adresse aux femmes. » Et tu diras aux enfants d'Israël, s'adresse aux garçons. Également dans le Zohar, il est écrit, ainsi tu diras à la maison de Jacob, signifiant avec une parole, du côté du jugement, din. Et dis-le aux enfants d'Israël, comme ils ont dit, et il leur dira son alliance. Rachamim, la clémence, et pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire les garçons qui viennent du côté de Rachamim. C'est pourquoi il est écrit « en parler ». Il faut comprendre les distinctions dans les mots du Zohar, qui dit dans la partie Aharei que Jacob et Israël sont deux degrés. Un, Jacob est en bas, avec qui on étudie le littéral. Deux, Israël est le degré supérieur, avec lequel on étudie les secrets de la Torah. Il est écrit dans le Zohar, Parashat Jethro, Jacob est une femme, Israël, ce sont des hommes. Il est dit, Jacob est du côté de Din, le jugement. C'est pourquoi il est écrit dire, et Israël est Rachamim, car dire est Rachamim. Il est dit, Jacob est considéré comme Vak, et Israël est considéré comme Gar. C'est pourquoi il est écrit, et dis-le aux enfants d'Israël. Ce qui signifie montrer Chochma et parler dans l'esprit de Chochma, puisque raconter implique Chochma. Chochma, sagesse. Tout d'abord, nous expliquerons ce qu'interprète le Zohar à propos du discernement de Jacob. Il est dit un vak, deux les femmes, trois din le jugement, quatre un degré révélé, le degré inférieur, le degré littéral. L'ordre du travail qu'une personne doit commencer pour atteindre son objectif et de connaître son état dans le travail du Créateur et quel est le but qu'elle doit atteindre. En d'autres termes, quelle est la plénitude qu'une personne doit atteindre. Le premier état qu'une personne sache est qu'elle est un idolâtre. Appelé idolâtre, c'est le mauvais penchant qui existe dans le corps de l'homme. On l'appelle un dieu étranger ou un dieu étranger. Il s'agit de clarifier son état, là où il se trouve réellement, qu'il est véritablement dans un état d'idolâtrie. Cependant, il faut faire de grands efforts pour voir la vérité, car il est impossible d'atteindre la vérité sans la Torah et le travail, comme ont dit nos sages, de l'olishma, par en son nom, on en arrive à l'ishma, en son nom. Dans un état de l'olishma, lorsqu'un homme fait des efforts dans la Torah et qu'il travaille, il est dans la nature de regarder les gens qui l'entourent. Et il voit qu'il n'y a personne d'autre comme lui, consacrant autant d'heures au travail du Créateur. Dans cet état, il se sent supérieur aux autres, ce qui lui fait oublier son objectif. Ce qui signifie que l'essentiel est d'atteindre l'Ishma. C'est parce que les gens de l'extérieur lui ont fait ressentir Shlemut, la plénitude. Et cette Shlemut est la raison pour laquelle il ne peut pas se sentir dépourvu de son objectif principal, atteindre l'Ishma. C'est particulièrement vrai s'il est respecté en tant que serviteur du Créateur. En effet, toutes les personnes qui l'honorent lui inculquent leurs opinions pour qu'il croie ce qu'il pense de lui, qu'il est un homme très vertueux et sans aucun défaut. Ainsi, comment est-il possible qu'une personne dise d'elle-même qu'elle est dans un état d'idolâtrie, qu'elle n'est toujours pas circoncise? Il s'ensuit que sa dvekut au mas, c'est-à-dire leur dvekut adhésion à sa Torah et à son travail, lui a apporté la plénitude. Dans le travail, cela s'appelle une prise sur les extérieurs. Et que perd-il à avoir cette prise? La réponse est que l'emprise et la raison pour laquelle il ne peut pas voir son véritable état, qu'il est toujours un idolâtre, et qu'il devrait demander conseil pour sortir de la domination du mal. Le deuxième état d'un homme est lorsqu'il se circoncit. Circoncision signifie qu'il coupe le prépuce, Le prépuce est composé des trois clipotes, coquille, écorce, pelure, des trois clipotes impures appelées vent orageux, grand nuage et feu ardent. Et le désir de recevoir vient de là. Cependant, il n'est pas en notre pouvoir de couper ce prépuce. Le Baal HaSulam a dit à ce sujet que le Créateur devrait aider un homme à couper le prépuce. Il est écrit à ce sujet et il fit alliance avec lui. Le sens de « avec lui », c'est que le Créateur l'a aidé. Cependant, l'homme doit commencer. Cependant, si nous disons qu'il ne peut pas se circoncire tout seul, alors pourquoi un homme devrait-il commencer si nous disons qu'il ne peut pas finir? Il semble que son travail soit vain. Cependant, nous savons qu'il n'y a pas de lumière sans cli, récipient. Et un cli est appelé un manque, chisaron. Car là où il n'y a pas de chisaron, il n'y a pas de satisfaction. Ainsi, une personne devant démarrer fait référence au chisaron, au manque. Cela ne signifie pas qu'une personne doive commencer par le remplissage. Lorsque nous disons « commencer », il s'agit plutôt de donner le besoin et le manque. Ensuite, le Créateur vient et comble le manque. C'est ce qu'on appelle « et a conclu une alliance avec lui », selon lequel le Créateur l'aide. Ceci est également considéré comme la ligne droite. Ce qui est le sens de « Père donne le blanc », comme expliqué dans le Talmud des 10 Sphirot. Cela signifie que lorsque la lumière supérieure brille, c'est-à-dire « Or Chochma » appelé « Abba », le Père, il est possible de voir la vérité, à savoir que le prépuce, le désir de recevoir, est une mauvaise chose. Ce n'est qu'alors qu'il se rend compte qu'il faut rejeter l'amour propre. C'est l'aide qu'un homme reçoit du Créateur. Il parvient à reconnaître le mal. En d'autres termes, avant qu'une personne ne parvienne à la résolution qu'il ne vaut pas la peine d'utiliser le receveur, qu'elle ne peut pas utiliser les récipients de dons puisque l'un contredit l'autre. Pour cette raison, un homme doit se circoncire et alors il peut prendre sur lui le désir de donner sans réserve. Il s'ensuit que l'ablation du prépuce, appelée circoncision, vient avec l'aide d'en haut. En d'autres termes, c'est précisément lorsque brille la lumière supérieure, qu'il voit sa bassesse, qu'il ne peut rien recevoir à cause de la disparité de forme. Dans les mondes, cela s'appelle « Père donne le blanc ». Et après avoir reconnu le mal, vient une deuxième correction. Il commence à travailler afin de donner sans réserve. Mais cela aussi nécessite une aide d'en haut. C'est ce qu'on appelle « sa mère donne le rouge ». Dans le Talmud des 10 Sphirot, il interprète que cela est lié au désir de donner sans réserve, Hashpah. Il s'ensuit que le pouvoir d'annuler le désir de recevoir et le pouvoir d'accomplir des actes de don sans réserve sont donnés par le supérieur. Autrement dit, l'aide vient d'en haut. Cela soulève la question, que donne celui du bas? Puisque l'on dit que celui du bas doit commencer, par quoi commence-t-il pour qu'ensuite le Créateur lui apporte l'aide nécessaire? Comme il a été dit, tout ce que l'inférieur peut donner au Créateur, c'est le manque, pour que le Créateur ait une place à combler. En d'autres termes, celui qui souhaite être un serviteur du Créateur et non pas un idolâtre doit en venir à ressentir son humilité. Dans la mesure où il ressent cela, une douleur se forme progressivement en lui d'être si immergé dans l'amour propre, en réalité comme une bête, et de n'avoir aucun lien avec le discernement d'un humain. Pourtant, parfois une personne arrive à un état où elle peut voir sa petitesse et ne se soucie pas d'être immergée dans l'amour propre. Elle ne sent pas vraiment qu'elle est dans une telle bassesse au point d'avoir besoin que le Créateur la délivre à partir de cela. Dans cet état, la personne devrait se dire « Je ne suis pas inspiré par le fait que je suis comme une bête, ne faisant que des choses bestiales. Et ma seule préoccupation dans cet état est de demander au Créateur de me permettre de ressentir davantage de plaisir dans les plaisirs corporels. Et je ne ressens aucun désir autrement. Dans cet état, une personne devrait se dire qu'elle est désormais dans un état d'inconscience. Et si il ne peut pas prier pour que le Créateur l'aide, il n'y a qu'une seule solution, se lier avec des personnes dont il croit qu'elles ressentent le défaut, qu'elles sont dans l'humilité, et qui demandent au Créateur de les délivrer du trouble, du soulagement, et des ténèbres à la lumière, bien qu'il n'ait pas encore été délivré par le Créateur qui les a rapprochés. Ensuite, il devrait dire, bien sûr, ils n'ont pas encore atteint leur cli de manque appelé le besoin d'être délivré de cet exil. Cependant, ils ont probablement parcouru la majeure partie du chemin pour ressentir le véritable besoin. Ainsi, à travers eux, il peut aussi recevoir leurs sensations, ce qui signifie qu'il ressentira également de la douleur d'être dans la bassesse. Cependant, il est impossible de recevoir l'influence de la société s'il n'est pas attaché à la société, c'est-à-dire s'il ne l'apprécie pas. Dans la mesure où il le fait, il peut en recevoir l'influence sans aucun travail, simplement en adhérant à la société. Il s'ensuit que dans le deuxième état, lorsqu'il est circoncis et qu'il est passé par les deux discernements, un, l'élimination du mal, qui est l'annulation des récipients de réception, et deux, l'obtention des récipients de dons. On considère que maintenant, il reçoit le degré de vac. Ceci est considéré comme un demi-degré, puisque un degré complet signifie qu'il peut également utiliser les récipients de réception afin de donner sans réserve. Et comme il n'a obtenu les récipients de dons pour donner sans réserve que après avoir été circoncis, cela est simplement considéré comme le degré de Vak. C'est ce qu'on appelle le degré de Jacob. On l'appelle aussi femelle, comme dans sa force est aussi faible qu'une femelle, ce qui signifie qu'il ne peut pas les vaincre et les viser afin de donner sans réserve, mais uniquement avec les récipients de dons sans réserve. Et ce degré aussi s'appelle din, jugement, ce qui signifie qu'il existe toujours midat adin, la qualité du jugement, sur les récipients de réception, qu'il est interdit de les utiliser, car il ne peut pas viser pour donner sans réserve. On appelle cela aussi un degré révélé, savoir qu'il existe un autre degré qui lui est caché. On l'appelle aussi un degré faible, pour savoir qu'il existe un degré élevé. Nous avons besoin de le savoir pour savoir qu'il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire pour atteindre un degré encore plus élevé. Ce degré est appelé aussi le degré littéral, puisque maintenant qu'il est circoncis, il est devenu un simple juif. Autrement dit, avant d'être circoncis, il adorait les idoles. Maintenant, il est simplement considéré comme juif. De plus, maintenant, il est appelé Jacob, comme il est écrit, « Ainsi, tu diras à la maison de Jacob », ce qui signifie « dire », ce qui est un langage doux, puisque le degré de Jacob travaille uniquement avec des récipients de dons sans réserve, qui sont des kélim purs. C'est pourquoi il y a là « dire », qui est un discours doux. Il n'en va pas de même avec le discernement de Israël. Le Zohar interprète Israël comme étant un, le degré de « gar », la totalité de toutes choses, 2, les garçons, 3, rachamim, la clémence, 4, un degré élevé et caché, les secrets de la Torah. Nous les expliquerons un à la fois. 1, le degré de gar, puisque chaque degré comprend 10 sphirot, qui se divisent en roche et gouffre, tête et corps. Roche est appelé gar, ce qui signifie keter, chorma, bina, et gouffre est appelé zat. Ce sont deux moitiés de degré. C'est pourquoi vak est considéré comme le degré bas, et gar est considéré comme le degré haut. On sait que lorsqu'on parle du degré Vak, on l'appelle un demi-degré. C'est le signe que le gar est absent. Pour cette raison, quand on dit le degré de gar, cela signifie qu'il y a ici un degré complet, puisque la règle est que lorsque deux degrés sont ensemble, le plus élevé est mentionné et il inclut le plus bas. C'est pourquoi le Zohar appelle cela la perfection de toute chose, Israël. Le degré des garçons. Chaque degré contient deux sortes de kelim. Zar, qui est pur ou fin, qui sont des récipients de dons sans réserve, et Av, qui est épais, qui sont des récipients de réception. Il n'est possible de les utiliser que si l'intention de donner sans réserve est placée sur eux. Et comme le don sans réserve est contre nature, cela demande de grands efforts et beaucoup de force contre nature. Et quand on ne peut pas vaincre, et quand on ne peut vaincre que les bons kélim, on l'appelle une fille, ce qui implique que son pouvoir est aussi faible que celui d'une fille. Mais quand il peut aussi vaincre les récipients de réception, il est appelé un homme mâle, fort. Et comme Israël est considéré comme Gar, la perfection de toute chose, en utilisant aussi les récipients de réception, Israël est considéré comme garçon ou mâle. 3. Le degré de Rahamim. Puisqu'il y avait un tzimtzum, restriction, et un din, jugement, sur les récipients de réception, et qu'il est interdit de les utiliser à moins que l'on puisse le faire dans le but de donner sans réserve, alors qu'on ne peut pas viser à donner sans réserve avec les récipients de réception, il y a din en haut et il est interdit de les utiliser. C'est pourquoi une fille s'appelle din. Mais un garçon signifie qu'on peut vaincre afin de donner sans réserve dans les récipients de réception également. Et le din l'aurait retiré. Il utilise les récipients pour donner sans réserve, et cela s'appelle rahamim. L'on considère que le din précédent a été atténué par la qualité de rahamim, que maintenant il reçoit au degré de « afin de donner sans réserve ». C'est pourquoi un mâle s'appelle Rahamim. Cela signifie que les garçons sont appelés Rahamim et non Din. Comme il est écrit dans le Zohar, ainsi tu diras à la maison de Jacob. Ce qui signifie que dire vient du côté de Din. Et dit aux enfants d'Israël signifie que raconter vient du côté de Rahamim. Rashi interprète le verset. Ainsi tu diras à la maison de Jacob le nom Mechilta. Interprétation du livre d'Exode. Ce sont les femmes. Dites-leur avec un langage doux et parlez aux enfants d'Israël. Les garçons, les mots sont durs comme des tendons. Nous devrions interpréter les mots aux femmes, langage doux. Il a été mentionné ci-dessus que les femmes sont celles qui n'ont pas beaucoup de force pour vaincre, mais seulement contre les beaux kélim. Ceci est doux, ce qui signifie qu'il est doux et qu'il n'est pas si difficile de vaincre les récipients de dons. Mais les récipients de réception sont très difficiles à vaincre. C'est pourquoi les garçons, ceux qui sont dans un état de homme, qui ont le pouvoir de vaincre, ont été chargés de travailler dans des choses aussi dures que des tendons, c'est-à-dire des récipients de réception. Mais pourquoi le Zohar écrit-il que les garçons sont des rahamim? Plutôt, il est écrit « aussi dur que des tendons » et « dur » signifie « dire »,« din » et non « rahamim ». Par conséquent, d'un côté, il est dit que les garçons signifient aussi dur que des tendons. Et de l'autre, il est dit qu'ils sont des rachamim. Nous devrions également interpréter que les garçons ont également la force de vaincre les récipients de réception, qui sont difficiles à vaincre. Et en surmontant les récipients de réception, appelés Midat Hadin, la qualité du jugement, qui sont sur eux, il y a rachamim à cet endroit, et non din, jugement. Mais chez les filles qui n'ont pas la force de vaincre, les récipients qui n'ont pas la force de vaincre les récipients de réception, il y a midat hadin sur elles, et il leur est interdit de les utiliser. 4.
Un degré élevé et caché, considéré comme les secrets de la Torah, caché signifie que même si une personne est déjà circoncise et a été récompensée littéralement, c'est-à-dire étant un simple juif, c'est-à-dire qu'elle est parvenue à un état où elle ne commet pas d'idolâtrie, mais sert le Créateur. La lumière de Chochma révélée sur les Kélim de réception lui est toujours caché. Mais celui qui a été récompensé avec le plus haut discernement, qui est un homme, et qui a également le pouvoir de vaincre les Kélim de réception, la lumière de Chochma appelée les secrets de la Torah, apparaît sur ces Kélim. C'est pourquoi le Zohar dit, et dites-le aux enfants d'Israël, signifiant montrer Chochma et parler dans l'esprit de Chochma, puisque raconter implique Chochma, comme il est écrit. Et il racontera leur son d'alliance. Il s'ensuit que le fait de dire qu'il est interdit d'enseigner la Torah aux idolâtres doit être interprété dans l'ouvrage comme il est impossible d'enseigner la Torah aux idolâtres. Comme l'a dit Baal HaSulam, lorsqu'il parle du travail où il est écrit interdit, cela signifie « ne peut pas ». Mais après qu'il est circoncis, il y a deux degrés supérieurs et inférieurs, signifiant littéral et caché. Un article extrêmement complet.
Non.
Oui. Qu'est-ce que nous faisons? Tu ne comprends pas que je ne veux pas répondre à ces questions. Bon.
Tof.
Bon. Alors, qu'est-ce que nous faisons par la suite? Nous passons à la partie suivante, Rav. C'est, nous nous élevons au-dessus de la raison, c'est en préparation du congrès.
Tof.
Bon.
Bon, avoir le chalik haba.
Alors nous passons à la partie suivante de la leçon, mais avant, faites attention, on vous rappelle que samedi, dimanche 18-19 mai, nous aurons le congrès mondial de Kabbale. Nous nous élevons au-dessus de la raison pour vous enregistrer. Et rentrez s'il vous plaît dans le site convention.cli.one.
All is said and all is done, what is left?